C'est bien le message clair qui a été envoyé par le Premier ministre, c'est-à-dire de renouveler sa base, de poursuivre dans la voie de la modernisation qu'il avait engagée en fait dès le départ, dès son élection à la tête du parti en décembre 2005. Et avant les élections de 2010, hein, il avait pour but de transformer le parti conservateur, d'en faire un parti beaucoup plus moderne, plus ouvert aux femmes et aux minorités ethniques, rajeuni aussi. Et effectivement, là, je crois qu'avec son remaniement, il est en train de lancer le point de départ de la campagne électorale avant les élections de mai 2015.
Autre fait marquant, on va dire, de ce remaniement, c'est le départ de William Hague, donc le chef de la diplomatie britannique, qui est remplacé par Philippe Hammond, qui est, lui, un eurosceptique assumé. Que pensez-vous de ce choix ?
Très sincèrement, après avoir lu la presse et les commentaires des uns et des autres, je pense que c'est un choix tout à fait cohérent et qui s'inscrit un peu dans la poursuite des engagements de David Cameron. De là à dire que c'est un eurosceptique assumé, je crois qu'il faut savoir qu'au sein du Parti conservateur actuellement, l'euroscepticisme est devenu la ligne de conduite officielle du parti, du gouvernement. Et donc qu'il y ait des nuances effectivement sensibles, personnelles entre les uns et les autres, c'est un fait, mais je crois que Philippe Hammond va poursuivre la voie qui a été engagée par William Hague, va s'inscrire dans la continuité de la politique officielle du gouvernement actuel, qui est effectivement de faire campagne pour le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne si les négociations échouent. Et je crois que ça, c'est une condition importante. David Cameron a été clair quand il a prononcé son fameux discours de Bloomberg en janvier 2013. L'organisation des référendums est suspendue à la réussite des négociations avec les partenaires européens et au fait que les partenaires européens doivent accepter les conditions émises par le gouvernement britannique. Donc ça, c'est une position qui me semble assez claire et j'imagine que Philippe Hammond va poursuivre dans cette voie. Il a pu, à titre personnel, effectivement, manifester un enthousiasme plus marqué pour la sortie de la Grande-Bretagne. Mais bon, il va avoir un devoir de réserve et en tant que ministre, à mon avis, il va simplement continuer dans la voie qui avait été engagée par l'ensemble du gouvernement, y compris William Hague.
Est-ce que la nomination de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne, qui était, on va dire, un choix combattu par David Cameron, est-ce que ce remaniement, cette nomination de Philippe Hammond est une sorte de réponse ?
C'est peut-être une réaction, oui, c'est peut-être une réaction, mais il me semble que c'est un choix qui a été mûrement réfléchi. Je pense encore une fois que les prochaines élections approchent, hein, c'est en mai 2015, donc il est sûr que cette décision finalement va peut-être fragiliser les négociations, en tout cas peser sur les négociations entre le Royaume-Uni et les partenaires européens, mais il me semble que c'est une décision politique interne et que c'est une décision qui est liée à la campagne électorale du Parti conservateur dans le cadre des prochaines élections, même si effectivement elle peut être entendu et interprété de diverses manières par les partenaires européens. Il me semble que là, on est plutôt dans le point de départ d'une campagne, avec l'idée que David Cameron est en train d'appliquer en fait les anciennes recettes qu'il avait utilisées avant les élections de 2010, à savoir vouloir moderniser le Parti conservateur, l'ouvrir à un électorat plus large et essayer de conquérir effectivement des nouveaux électeurs parmi les jeunes. Les femmes en particulier et essayer d'avoir un gouvernement plus représentatif de la société. Donc je pense qu'il s'agit là plutôt d'un choix de politique, d'une stratégie de politique intérieure, de communication, qui va bien sûr peser sur les négociations, mais qui doit être vue essentiellement comme une stratégie interne.
Alors vous dites que David Cameron aimerait gagner un peu plus d'électorat parmi les femmes, les jeunes notamment. Est-ce qu'il n'a pas aussi envie de grappiller un peu des électeurs du UK Independent Party, qui est un parti qui est quand même monté en puissance lors des derniers scrutins?
Bien sûr, oui, de toute façon, c'est un message qui est très clair envers l'ensemble des électeurs potentiels du Parti conservateur, en particulier de ceux qui hésitent encore entre le Parti conservateur et le UKIP. Mais il faut savoir quand même que la menace du UKIP, qui est une menace à prendre en compte, et qui effectivement est devenu le premier parti britannique au Parlement européen aux dernières élections, est une menace toute relative. Parce que quand on regarde le mode de scrutin aux élections législatives au Royaume-Uni, on voit bien que le UKIP n'a que très peu de chances, voire quasi aucune chance d'être élu aux prochaines élections au Parlement de Westminster. Donc c'est simplement un message effectivement envoyé à l'électorat. C'est aussi peut-être une façon d'essayer de convaincre les électeurs hésitants du bien fondé de l'euroscepticisme conservateur, dans la mesure où effectivement les électeurs du UKIP, d'après les différentes études qui ont été menées, sont en fait beaucoup plus divisés entre les travaillistes et les conservateurs qu'on voudrait le croire. On a beaucoup parlé de la rivalité entre les conservateurs et le UKIP, mais en fait, la base électorale du UKIP est aussi une base ouvrière dans certains bastions travaillistes qui va quand même hésiter entre le parti travailliste et le parti conservateur.